Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, Ista, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, je suis ravi d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous au congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Il est 9h40, vous êtes en direct sur Territoria et sur IMO. Voilà, on a un rituel chez Radio IMO, vous savez, chaque année nous sommes accueillis avec beaucoup d'amitié sur le stand de Procivis, le R04, le Hall 6. Hall 6 qui a été rénové, rappelez-vous, par Jean Nouvel, magnifique Hall 6. Voilà, venez nous voir nombreux, voilà, on peut pas être mieux placé, on est au plein cœur de l'événement. Et tradition oblige, on va ouvrir ce congrès avec le président de Procivis. Bonjour Yannick Borne.
Bonjour Sylvain.
Yannick Borne, président de Procivis, maire de Saint-Berthevin. Vous êtes un élu local, très ancré dans votre territoire. Vous attaquez bientôt votre cinquième mandat, je peux le dire, puisque c'est officiel, vous l'avez dit au public.
C'est officiel depuis
voilà,
vendredi, oui.
Voilà, merci de ne pas vous mettre dans le chat de la caméra, sympa. Je vais récupérer ce que je dis. C'est votre cinquième mandat, vous l'avez annoncé officiellement. C'est important pour vous de vous relancer en politique, puisque vous avez cette particularité d'être un élu local à Saint-Berthevin, une commune de 8000 habitants. Ouais. Depuis, voilà, ça fait
quatre
plus
mandats.
De 20 ans.
Voilà,
quatre mandats.
Un certain nombre d'années.
Quatre mandats, quand même. Ah oui, quatre mandats. Ah ouais. Donc, alors, vous défiez tous les pronostics. Hein. Vous êtes réélu sans cesse. Au premier tour
Pour l'instant, ça a été au premier tour, à chaque fois. Bon, c'est un... Moi, je l'ai dit un vendredi, quand j'ai annoncé ma candidature sur ce cinquième mandat. D'abord, c'est un vrai bonheur d'exercer cet engagement-là, qui est un très, très bel engagement, mandat d'élu local. C'est aussi une forme... Enfin, je pense que ça vous change des personnes, quoi. C'est-à-dire qu'on vit des choses qu'on a la chance de vivre en tant qu'élu, auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on n'y est pas. Donc, je pense que ça vous change une personne. On n'en sort pas indemne, mais dans le bon sens du terme.
Est-ce qu'on arrive, quand on est président d'un réseau comme Procivis, qui est ultra puissant sur toutes les classes d'actifs, sur tous les métiers de l'immobilier? Je trouve ça extrêmement pertinent hein, comme modèle, je vous l'ai déjà dit. En plus, c'est un système coopératif, on ne peut pas rêver mieux en France. Vous avez aussi une vie personnelle, bien évidemment. On arrive à conjuguer une vie de famille, une vie politique, une vie professionnelle.
Moi, je vais répondre oui. Je ne suis pas certain que tout le monde dans mon entourage répondra tout à fait la même chose, avec autant de détermination. Mais voilà, c'est des choix à la fois un peu égoïstes, hein, par moment, il faut le reconnaître, et puis des choix qu'on organise aussi familialement et dans l'entourage. Je ne pense pas que les gens autour de moi en aient souffert, même si parfois, ils peuvent en avoir une certaine usure ou un peu de ras-le-bol.
Vous êtes une personnalité dans l'immobilier, Yannick, que je vous connais depuis quelques années. Vous avez cette particularité de bien maîtriser vos dossiers, c'est très agréable. Mais en même temps, il y a un contexte qui est dur, qui est difficile, qui n'est pas simple du tout. On va ouvrir ce congrès avec des baselines, vous savez, le slogan, un peu le contenu du congrès, c'est la qualité du logement, la durabilité, les transformations. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous démarrez un congrès comme celui-ci, dans un contexte géopolitique intérieur et extérieur extrêmement dur, avec un moral des Français extrêmement morose, des codes de popularité des politiques qui sont clairement désavoués, à l'instar de ce qui s'est produit avec la chute du gouvernement Bayrou, la nomination de Sébastien Lecornu et donc toutes les incertitudes que cela provoque. Pourquoi je vous fais ce lien? Parce que je voudrais que vous fassiez le lien avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Valérie Létard, ministre du Logement, qui a été plébiscitée à deux reprises, puisqu'elle a été renouvelée. Rares sont les ministres qui ont été renouvelés. Elle a été renouvelée sous le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou. Espérons, je ne sais pas si la composition a encore été faite à l'heure où je vous parle, mais espérons qu'elle soit reconduite. Votre avis, le regard de Yannick Borne sur cette situation globale?
En fin de compte, on a trois choses à dire un peu. Le premier, c'est que d'abord, au-delà du contexte politique du moment, il y a quand même une crise du logement maintenant qui dure. Moi, ça fait plus de 30 ans que je sévis dans ce secteur d'activité. Des crises, on en a connues, on en a subies. On avait des perspectives de sortie qui étaient en général assez rapides, en tout cas un peu d'éclaircies. Là, on est quand même maintenant depuis plus de 3 ans dans un contexte de crise difficile, avec quelques débuts d'éclaircies sur le secteur de la transaction immobilière. J'entendais Grégory Monod la semaine dernière qui disait que sur la partie maison individuelle, avec le retour du printemps zéro, on avait des petites éclaircies aussi qui apparaissaient, mais on voit bien que globalement, quand même, on reste dans une crise du logement qui est extrêmement dure. À côté de ça, il y a depuis maintenant la dissolution, des crises gouvernementales à répétition, en tout cas une instabilité politique qui ne permet pas, comme nous on le fait d'habitude, de co-construire avec les élus une politique du logement, même si on n'est pas souvent écouté, mais en tout cas on y contribue. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé dans le cas du CNR. Et là, l'instabilité politique, elle est pour nous inquiétante, dramatique, pour employer des termes plus crus que ça, peut-être par moment. Mais... Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est-à-dire, pourquoi c'est si instable,
Yannick ? On a un contexte politique qui est aujourd'hui sur lequel il n'y a pas de majorité, tout le monde le sait. On voit bien qu'il y a trois blocs un peu au Parlement. On a une incapacité à faire au niveau national ce qu'on essaie de faire au niveau local. Tout à l'heure, vous faisiez référence à mon engagement politique, qui est de construire sur les territoires, je dirais, avec des gens qui, au présidentiel ou au législatif, votent différemment que moi et qui sont dans mon équipe. Et ça pose aucun problème sur le plan local, et heureusement, et sur le plan national, même dans un espèce de moment assez dramatique pour notre pays, ou en tout cas inquiétant, on n'arrive pas à faire en sorte que les partis dits de gouvernement, je veux dire comme ça, tout le monde voit à quoi on fait allusion, arrive à s'entendre en se disant les sujets qui fâchent, on les met de côté jusqu'à l'échéance. Il y a une échéance démocratique quand même, qui est l'élection présidentielle. Donc si on met ça en cause, c'est un peu inquiétant aussi. Donc, et d'ici là, il y a peut-être des sujets sur lesquels on est capable de s'entendre. Alors nous, on le dit d'autant plus facilement que le volet logement est sans doute un sujet sur lequel il y a le moins de clivage politique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il imprègne assez peu sur le plan national, parce qu'ils ne peuvent pas trop se foutre sur la gueule, excusez-moi de le dire comme ça, sur notre sujet.
Non, mais donc, heureusement que vous le dites comme ça. On a besoin d'un politique qui dise OK, il y en a marre. Quoi,
donc là-dessus, on pourrait peut-être essayer de co-construire. Il y a sans doute d'autres termes pour lesquels ça pourrait se calmer et pour travailler ensemble jusqu'à l'échéance présidentielle de mi-2027.
Gauche-droite, ils partagent le même.
Globalement, sur les questions de logement, alors il y a des petites nuances, certaines nuances, puis après il y a des postures politiciennes, mais globalement, sur la nécessité d'accompagner les gens sur le logement, sur la crise du logement, sur les solutions qu'on pourrait construire qui ne sont pas énormes, vu il n'y a pas 50 000 solutions non plus, vu le contexte notamment des finances publiques. Voilà, les débats, on les partage à peu près tous, donc on devrait arriver, en tout cas sur un sujet, j'espère que ça serait le cas sur d'autres, sur notre sujet, en tout cas, à trouver des consensus qui soient largement partagés pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est quand même pour nous une vraie difficulté. Donc à partir de là, aujourd'hui, juste avant notre rencontre, je faisais un petit point avec Emmanuel Coste sur l'ouverture du congrès, et on se dit, de toute façon, on n'a pas le choix que d'essayer d'avancer, nous, donc il va falloir qu'on fasse.
Ah oui.
Sans gouvernement ou avec gouvernement, il va falloir qu'on fasse.
Alors, parce que vous aussi, vous avez été. Le logement social a été durement impacté.
Le logement social est durement impacté. Le contexte aujourd'hui de toute la filière, quand on voit les chiffres de la promotion immobilière qui sont quand même divisés par deux, quoi, par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc on ne peut pas considérer, il n'y a pas un secteur d'activité qui est capable de résister à de telles sous-performances trop longtemps. Donc on voit des acteurs qui disparaissent, des mises en redressement judiciaire, puis des liquidations de promoteurs. Donc on voit bien qu'il y a une filière qui est malmenée. Ce qui sera inquiétant aussi, c'est que le jour où les choses vont s'éclaircir...
Il n'y aura plus personne.
En tout cas, il y aura moins de monde. Donc est-ce qu'on aura capacité à rebondir aussi vite que ça ? À mon avis, c'est quand même assez compromis. On le voit bien sur d'autres champs, je pense à la maison individuelle notamment. Donc voilà, il y a tout ce contexte. Donc il faut qu'on apprenne aussi, nous, à réfléchir peut-être un peu plus, nous, la filière, à nous désensibiliser. Je sais que c'est pas partagé, ça, mais à nous désensibiliser le plus possible de l'action publique.
Du soutien public ?
Oui, alors il y a le soutien financier, il y a le soutien législatif, mais à un moment donné, on peut pas... Nous, on est sur un temps long. Construire et agir dans le logement, c'est du temps long.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous dites ? Le paradoxe, c'est que tout est politique dans le logement et dans l'aménagement du territoire, parce que ça commence avec l'aménagement du territoire. Est-ce que finalement... Moi, je comprends ce que vous dites, parce qu'il y a un modèle économique, il y a des entreprises de capitaux privés ou non, d'ailleurs. Parce que là, je regardais les statistiques, FFB, par exemple, sur la destruction d'emplois. Vous avez vu les chiffres, c'est vertigineux. Sûr, oui. Je pense qu'il faut remonter à plus de 40 ans pour avoir une crise équivalente. Je regardais les autorisations d'urbanisme, les agréments. C'est la chute libre. Alors, il faut trouver, vous avez raison, il faut trouver des explications à cette crise. Mais on a vraiment l'impression que c'est un discours politique qui est une vraie politique offensive.
Le problème de la politique du logement, c'est qu'elle est rentrée pendant des années, des dizaines d'années, par un angle strictement budgétaire, alors que c'est d'abord une politique sociale. On peut avoir des convictions différentes sur le poids du logement social ou pas le poids du logement social, sur l'accompagnement des travaux de précarité énergétique ou d'amélioration du logement. Tout le monde peut avoir des variantes par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la vie de chacun des Français, c'est pas la même si le logement, il est confortable, compatible à sa composition
familiale. Toutes les études le démontrent, même la santé.
Et voilà, donc on voit bien que ça a des répercussions assez colossales. Et Peut-être d'ailleurs ce qui a fait mettre le doigt de façon très importante là-dessus, c'est la crise sanitaire. C'est-à-dire c'est le fait, quand on était confinés, on a bien vu que certains, c'était pas très grave d'être confinés, parce qu'on avait un cadre de vie qui pouvait nous permettre d'être plutôt plaisant.
Oui.
Dans d'autres cas, c'est quand même plus compliqué.
Oui,
donc cette crise du logement, elle a aussi cette nécessité-là, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun vive dans le logement qui correspond le mieux à son pouvoir d'achat, à sa composition familiale, à sa situation professionnelle, etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas attendre... Il faut aussi que toute la filière, ce qui est le cas, hein, et c'est difficile parce que c'est une remise en cause quand même assez forte, toute la filière se dise qu'elle doit agir sans attendre non plus les accompagnements publics. Les accompagnements publics qui viendront, à un moment donné, il faudra sans doute réinventer des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour du statut du bailleur privé, qui a été à peu près acté, mais pour l'instant, on attend, il nous faut une loi de finances.
Acté, annoncé à l'arrêt.
Ouais, mais il nous faut une loi de finances. Hein,
alors là, c'est la grande incertitude.
Voilà.
Là, du coup, vous dites vraiment pas de bol. Hein,
vraiment pas de bol, et puis c'est
années pour l'obtenir. Hein.
C'est tout ce qui perturbe la filière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on attend et puis on se lamente, ou est-ce qu'on essaye d'imaginer, de travailler sur autre chose?
Bon,
c'est ce que le réseau nous essaye de faire avec toute sa diversification. C'est assez compliqué, hein, faut le reconnaître, c'est pas nécessairement facile, mais on n'a pas le choix que d'avancer. Et je pense que le discours qu'on avait avec Emmanuel tout à l'heure sur le monde HLM, c'est qu'il y a certes la nécessité pour nous de continuer d'être des acteurs de la politique publique au niveau national, mais aussi dire à tout l'ensemble des structures, des organismes, il faut bosser aussi sans y compter, ou en tout cas pas y compter tout de suite. Quoi. Voilà, il faut quand même pas s'arrêter complètement aujourd'hui de produire, de réhabiliter, même si les choses sont plus compliquées, et l'ensemble des modèles économiques vont devoir évoluer. Je sais pas trop comment, j'ai pas de solution, on voit où sont certains points durs, mais il va falloir quand même les faire évoluer.
Justement, on va parler du réseau. Vous avez aujourd'hui une particularité, donc on a des sociétés de capitaux privés qui sont unies dans le cadre de ce qu'on appelle les SACICAP, donc dans une perspective coopérative. Donc vous êtes un réseau coopératif qui finalement conjugue des structures de capitaux et aussi un vote démocratique, c'est-à-dire qu'un homme, une voix, avec un certain nombre de limites. Et vous êtes également sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire classes d'actifs bureaux, retail, commerce, résidentiel. Vous êtes promoteur, mais vous êtes aussi également gestionnaire, exploitant. C'est hyper ingénieux, non, comme modèle. Parce que vous avez un modèle hybride. Non, mais c'est vrai, je regardais les chiffres. Je me suis dit, à périmètre constant, la logique Procivis, elle était déjà vertueuse dès sa naissance, quoi. Je veux dire, oui.
Bah, nous, on est, les héritiers de...
Tout le monde vous pose la même question.
Mais c'est vrai. On est les héritiers de structures très anciennes, puisque les premières sociétés, quand on remonte avant la structure qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon SACICAP, qui est née de la loi de 2006, ça date de 1908. Donc voilà, c'était l'origine du réseau, c'est l'accession à la propriété des classes laborieuses méritantes.
Et vous avez été d'ailleurs aussi banquier, enfin président de banque.
Donc on a été sur toute cette filière.
Classe laborieuse.
Classe laborieuse méritante.
J'adore.
Les deux. Les deux étaient dans le texte de la loi Ribot de 1908.
Mais j'adore.
Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette organisation très particulière.
Ouais.
C'est pas un groupe, c'est un réseau. 44 sociétés autonomes à l'origine. De statut coopératif, c'est-à-dire elles ont plusieurs dizaines de millions de fonds propres, mais elles ont un capital très faible avec des actionnaires qui sont souvent des acteurs locaux ou des personnes physiques.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle les SCIC?
Oui, c'est ce qu'on appelle
Société coopérative d'intérêt collectif.
On est dans le statut coopératif d'intérêt collectif, et effectivement, toute une activité économique qui, elle, se rapproche complètement. Mais vous savez, vous regardez les statuts des grandes banques mutualistes françaises, c'est un copier-coller. Hein.
Oui.
On est presque sur toute proportion gardée, mais globalement, sur le plan statutaire, en tout plan et juridique, on est assez proche. Et puis après, on a toutes nos activités immobilières qui sont essentiellement dans le résidentiel, en tant que promoteur, constructeur de maisons individuelles, réseau d'administrateurs de biens et de services immobiliers, à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Voilà, donc sur 2024, on était un peu à contre-cycle parce qu'on a une production qui a augmenté, on est 3000 collaborateurs un peu plus, 1,6 milliard de chiffre d'affaires sur l'ensemble des sociétés du réseau, et plutôt aujourd'hui une décentralisation, notamment une culture décentralisée qui fait qu'on est assez peu exposé. Je ne dis pas qu'on n'a pas souffert non plus de la crise, hein, c'est pas vrai, mais on est moins exposé qu'un certain nombre, et puis dans le contexte actuel, moi j'ai pas d'actionnaire qui vient de me demander 5% de TRI. Ce qui fait que dans un contexte de crise économique...
Et vous réinvestissez.
C'est-à-dire qu'on réinvestit tout ce qu'on gagne, et on doit gagner. Derrière la notion d'économie sociale et solidaire ou de coopérative, il y a la notion quand même de rentabilité économique qui est là, sauf qu'au lieu d'en avoir une partie qui est captée par l'actionnaire, Donc soit on peut accepter un rendement un peu moindre, soit ce rendement il est réinvesti intégralement. Donc nous, il est réinvesti à 80-90% dans le développement de nos activités économiques, et puis pour une partie dans des actions sociales dans le domaine du logement. Donc effectivement, ça crée une organisation assez atypique, pas toujours très facile à détecter d'extérieur, et ça, quand les gens me le disent, je leur dis que c'est pas de leur faute, ils n'ont pas compris comment on était organisé. Hein, on a une organisation un peu complexe, pas facile à lire, mais qui aujourd'hui est un modèle qui est assez vertueux dans le contexte actuel.
Et l'assistant, est-ce qu'aujourd'hui, si vous me permettez cette question, les sociétés qui sont aujourd'hui dans le réseau, comment se portent-elles aujourd'hui ?
Globalement, elles se portent pas trop mal. C'est-à-dire qu'on sait qu'on avait une ou deux poches de fragilité qu'on a su assumer collectivement. C'est-à-dire qu'on a aussi cette volonté-là. Ce qui a été le cas notamment sur un dossier l'année dernière, il y en a eu VU1 il y a 5-6 ans.
Vous faites jouer la solidarité, c'est ça que vous dites ?
C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, chacun dans son coin, tu te démerdes.
Voilà, je suis associé de la coopérative, mais... je suis vraiment très compliqué financièrement.
Et le réseau, là, joue...
Est-ce que vous l'aidez ?
Voilà, le réseau pourrait dire non, mais il n'a jamais dit non. Donc, il ne faut pas que ça arrive non plus. Voilà, ce qui impose aussi entre nous des règles du jeu, de transparence et de relations qui sont nécessaires, hein, nécessairement transparentes et confiantes, en confiance. Donc, c'est cet état d'esprit qui règne. Et ça, c'est le rôle du président que je suis, de faire en sorte que cet état d'esprit perdure.
J'ai une autre question. Est-ce qu'une société nouvelle qui souhaite entrer dans le réseau Procivis, est-ce qu'elle peut le faire ? Est-ce que vous ouvrez ?
Rien n'empêche la constitution d'une structure ou l'intégration de structure. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle transforme son organisation, qu'elle devienne ce qu'on appelle une société, une SACICAP, une coopérative d'intérêt collectif d'accession à la propriété. Ouais. C'est pas nécessairement facile, on regarde l'objet social, de transformer une existante.
D'accord.
Créer une structure ou reprendre une coquille, la transformer, ça s'est jamais fait. On s'est plusieurs fois posé la question de savoir si c'était des sujets qui étaient impossibles ou possibles. C'est des sujets qui sont compliqués, mais qui sont possibles.
Donc un acteur global qui est très intéressé par votre modèle, parce que j'ai vu des entreprises qui... j'en connais une déjà, assez incroyable. D'ailleurs, c'est la seule du secteur, un promoteur qui est devenu... qui est labellisé Bicorp et à mission, et dont la prochaine étape est de structurer son capital avec une participation collective.
Ce qui est compliqué, c'est que de passer d'un statut classique, je veux dire, de société à un statut coopératif, c'est de renoncer au poids de l'actionnaire. C'est quand même très compliqué.
Oui.
Donc voilà, il faut. Je suis pas certain que ça soit nécessairement.
Donc ça veut dire que le réseau en état, on va dire qu'il n'y aura pas forcément plus d'entreprises. C'est ça que je veux dire.
Non, mais si demain on trouvait que créer une structure sur un territoire où on n'est pas présent, par exemple,
ex nihilo, une croissance organique,
rien ne l'empêche.
D'accord.
Rien ne l'empêche. Aujourd'hui, on est
même de la croissance externe possible.
La croissance externe, elle se fait. Nous, il y en a quasiment tous les mois qui sont faites par des structures du réseau qui rachètent des acteurs.
Oui, ça a été le cas.
Voilà. Donc on a fait des grosses opérations, notamment en 2019
Dans le Nord, c'est le groupe Tisserin. Hein,
le groupe Tisserin qui a racheté Nakara.
Hein.
Mais cette année, on a dû faire depuis le début d'année une douzaine de croissances externes, notamment en ADB sur les territoires, alors des plus petites et des plus importantes. On a une belle opération qui se fait en ce moment sur la région Rhône-Alpes. Donc les acteurs, chacun dans leur coin, peuvent bien évidemment faire de la croissance externe. Mais comme on est dans cette notion de réseau, cette croissance externe, elle doit être recevoir ce qu'on appelle un avis conforme, c'est pas une autre, de l'ensemble de la collectivité, enfin de la gouvernance du réseau. Donc il doit y avoir une transparence, il faut vérifier que ça correspond au statut, à la stratégie. En général, ça pose pas de problème. Mais c'est l'état d'esprit qui règne chez nous et qui fait qu'aujourd'hui, le réseau résiste plutôt bien dans la phase compliquée qu'on vit.
Un dernier mot, si vous disiez, je vous demandais de résumer en une phrase ce que vous attendez de ce salon, vous diriez quoi ? Ou une attente ?
Se prendre totalement en main. Ne pas compter que sur l'État.
Voilà. C'est exactement la ligne directrice de contenu du salon qu'on va essayer de vous faire découvrir, les amis, pendant ces 3 jours. Je rappelle qu'on est ici au stand R04, sur le stand de Procivis. On est ici jusqu'au 25. Merci Yannick Borde.
Merci,
je sais que vous avez un agenda très contraint. Je vous souhaite une très belle journée et on reste connecté sur Radio Immo. Il est bientôt 10h. On va recevoir Sylvain Richer pour le syndic collectif. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. À tout de suite.
Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, ISTA, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Immo et Radio Territoria.